adaptons-nous le logement à nos besoins tout au long de la vie. Métamorphose du chez-soi, une rencontre proposée par Leroy Merlin Source.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous pour partager ces travaux. On va vous parler de choses extrêmement intéressantes et vous parler justement, créé à l'initiative de Leroy Merlin en 2005, Leroy Merlin Source réunit des chercheurs, des professionnels, des enseignants de l'habitat pour créer, pour partager avec vous et diffuser des savoirs originaux sur les nouvelles manières de vivre et d'habiter. L'ouvrage « Métamorphose du chez-soi » propose un panorama de chantiers de recherche qui ont été menés entre 2017 et 2020. C'est vous dire le programme qui vous attend. Sentiment d'identité, de stabilité, de sérénité et de sécurité, le chez-soi évolue et se transforme au fil des âges et des aléas de l'existence. Le logement se construit, il se repense, il s'adapte jusqu'à se réinventer car habiter n'est ni inné ni statique. Chez-soi, deux petits mots, aux multiples facettes que la crise sanitaire a beaucoup bousculé, accélérant des tendances déjà à l'œuvre. Pour en parler, nous avons des personnes qualifiées pour développer tous les paradigmes de l'habitat. Je vous propose qu'on les écoute tout de suite après ça.
Transformer sa maison.
Eh bien, pour nous en parler, Transformer sa maison, c'est tout un programme. Nous avons un parterre de professionnels et d'intelligence collective, et j'aime beaucoup ce mot, j'y suis très attaché, pour partager avec vous cette vision justement de, à la fois du chantier domestique, mais de tout ce que ça recouvre comme élément positif, parfois négatif. À distance, elle n'a pas pu être présente avec nous, mais elle est sous le soleil de Provence. Elle est consultante et anthropologue, auteure de la recherche « Explorer le temps du chantier » en visio avec nous, Viviane Hamon. Bonjour Viviane.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes à distance en Provence. Et d'ailleurs, je commencerai tout à l'heure par vous. Merci d'être avec nous. Jean-Paul Filiot est avec nous. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Alors Jean-Paul, vous êtes sociologue et anthropologue. Et vous êtes aussi co-auteur de l'ouvrage « Saisir le chantier par l'image ». Tout un programme. Merci d'être avec nous.
Merci.
Gaël Guillou est avec nous.
Bonjour.
Gaël, vous êtes designer, co-auteur de la recherche « La santé habitée ».
C'est exact.
J'adore ce titre. Voilà, je vous le dis parce qu'il il recouvre une véritable réalité et que la santé, enfin dans l'habitat, est évoquée, ce qui est une très bonne chose et je trouve ça assez innovant et nécessaire. Merci d'être avec nous. Nadia Samy, vous êtes avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Comment allez-vous Nadia?
Très bien, merci.
Moi je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes architecte, co-auteur de la santé habitée et spécialiste des questions d'accessibilité pour tous les bâtiments.
Je dirais plutôt AMO en accessibilité et qualité dus-âge au pluriel.
Voilà, dus-âge, avec un jeu de mots sur la maîtrise des us-âges. Mais dans les us, il y a aussi les us et coutumes, bien évidemment.
Absolument.
Je vois que ça a beaucoup engorgé dans l'agence de com, ou je ne sais pas si c'est vous. Écoutez, troisième cycle de marketing pour Nadia Samy, merci en tout cas. Alors AMO, je le dis pour nos amis, c'est de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Absolument.
Voilà, donc un accompagnement nécessaire. J'allais même dire que parfois, il faut être AMU plutôt qu'AMO, parfois, assistance à la maîtrise d'usage, parfois.
Absolument.
Merci en tout cas d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau.
Merci.
Alors, je ne vais pas bouder mon plaisir, il est sur mon plateau, je suis très heureux de l'avoir, et c'est Frédéric Morestin.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Frédéric?
Ça va bien.
Alors Frédéric, vous êtes ergothérapeute et vous êtes chercheur, auteur d'une recherche en cours de finalisation sur l'aménagement et l'adaptation du logement au handicap d'enfants et d'adultes. Inutile de dire que dans votre métier, vous voyez parfois le très très dur, le très 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 dur, et parfois des véritables lieux d'espoir et des expériences de vie réjouissantes, très humaines.
Oui, je crois que les ergothérapeutes ont à se frotter avec parfois une dureté de la vie, mais le logement c'est aussi quelque chose de la vie, et malgré parfois la déficience ou les traumatismes de la vie, eh bien, je crois que les populations que nous rencontrons nous engagent à profiter pleinement de ces instants de vie, en fait.
Merci en tout cas d'être avec nous, et nous sommes ensemble pendant un peu plus d'une heure trente pour parler de ces sujets. Je suis très content, d'ailleurs je remercie nos amis de Laurent Merlin Source de nous laisser le temps d'évoquer, d'avoir ce temps nécessaire à appréhender une pensée qui n'est pas simple, qui est une pensée complexe, mais dont on peut décrypter les éléments et donner les clés de lecture et de visibilité à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors je vais passer tout de suite avec vous, Viviane Hamon. Alors Viviane, vous êtes consultante et anthropologue, vous êtes auteur de la recherche « Explorer le temps du chantier ». Et votre intérêt, Viviane, s'est notamment porté sur les rites de passage à travers le chantier. Et j'aimerais qu'on revienne bien sur cette notion de rite de passage. Question, voilà, générique, comment les particuliers qui rénovent leur logement traversent-ils les épreuves et les promesses des travaux ?
Alors, déjà, cette recherche, elle est un peu particulière puisque elle a permis, à travers un dispositif original qui était de demander à 14 ménages en chantier, chez eux, en site habité, pendant 8 semaines, d'être en relation avec nous et entre eux à travers un dispositif de type réseau social, où ils pouvaient se lâcher à peu près tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, poster des photos et nous raconter ce qui se passait sur le chantier, en fait. Et l'idée, c'était que nous, pauvres anthropologues, ce temps du chantier, on y a difficilement accès, puisqu'en fait, on ne peut pas s'imposer sur un chantier pendant quelques semaines. Et donc, c'était une manière d'être sur chantier avec les ménages et de vivre avec eux qui vivaient au jour le jour au cours de ce chantier. Donc ça, c'est pour la méthode qui s'est révélée très riche, qui nous a permis de récolter des centaines de photos et beaucoup de textes et de posts qui nous ont donné accès à ce que vivaient les ménages pendant ce temps douloureux et excitant.
Alors justement, vous l'avez dit douloureux, mais comment il l'a vécu ? Quel a été est-ce que vous avez senti, je sais pas moi, beaucoup d'excitation, beaucoup de stress, des moments de doute, des moments où on se dit est-ce que j'ai pas fait une erreur de mener telle ou telle chose, ou le côté presque irréversible de la démarche quelque part ?
Alors c'est un peu tout ça, et si je reviens à la question initiale sur les rites de passage, c'est des choses qui m'étaient apparues dans les recherches précédentes. Où on s'aperçoit que quand décider de se mettre en chantier, hein, décider de faire des travaux de rénovation chez soi, ben c'est un petit peu ce qui se passe pour l'adolescent d'une tribu papou ou amazonienne qui va à travers les épreuves d'un rite de passage en sortir grandi. Hein, et en fait, on va dire qu'il y a trois temps dans le rite de passage. Il y a ce temps où on désire, où on aspire à mieux, à un mieux-être, à un mieux après ce rite. Il y a le rite de passage qui est le moment difficile à passer. Et ensuite, l'après, où on jouit d'avoir grandi à travers ce rite de passage, de s'être transformé. Et en l'occurrence, pour la maison, c'est non seulement de s'être transformé soi, mais d'avoir aussi transformé sa maison à cette occasion. Avec une question qui se pose au milieu, c'est la question de l'accompagnement pendant ce rite de passage. C'est-à-dire, est-ce qu'on est tout seul ? De quoi on s'entoure ? Et ça pose la question aussi pour ceux qui sont autour, hein, qui accompagnent, qui participent de cette aventure. Jusqu'à quel point ils interviennent, jusqu'à quel point ils prennent la parole, jusqu'à quel point ils contrôlent ou ils cadrent et comment ils sécurisent sans s'immiscer aussi de manière trop forte dans ce qui se passe pendant le temps du chantier.
Est-ce qu'on peut dire, Viviane, que l'on se transforme soi-même en transformant son habitat ? Ou est-ce que le raccourci est un peu court ?
Il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que derrière les travaux, le fait de se mettre en chantier, de faire des travaux de rénovation, il y a évidemment à l'origine un projet très mobilisateur, parce qu'on ne se lance pas là-dedans et dans tous les tracas que ça suppose sans avoir un objectif très fort. Je crois que l'objectif premier est justement la transformation de la maison et que la transformation de soi apparaît a posteriori comme le bénéfice collatéral en fait, hein, et qui, oui. qui va se traduire par de la fierté, de l'accomplissement de soi, le fait d'être content de ce qu'on a fait. Et puis celui qui est très perturbant pour les chercheurs, celui d'oublier les mauvais moments au profit des bons moments. Donc le fait de les suivre comme ça pendant 8 semaines, ça permet aussi de voir comment émerger les mauvais moments et comment les gens y faisaient face.
Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion d'accompagnement. Alors justement, en quoi l'accompagnement par des professionnels sur un chantier est un enjeu, on peut le dire, un enjeu majeur. Et surtout, est-ce qu'on arrive à garder la bonne distance, vous voyez, lorsqu'on est dans cet accompagnement, qui est quelque chose qui tient même du lieu de l'intime. On parle de l'habitat, le lieu où on va finalement se représenter avec une certaine vérité aussi, avec sa famille, et qu'on va partager avec quelqu'un, un tiers, qui est le tiers de confiance, qui est celui qui va nous accompagner, des choses qui sont de l'ordre de l'intime, encore une fois. Comment on fait à la fois pour garder une certaine distance et objectivité, et en quoi, effectivement, cet accompagnement est un enjeu majeur?
Alors, l'accompagnateur principal de ces chantiers, ou les accompagnateurs principaux de ces chantiers, sont hyper majoritairement les artisans. Hein, c'est-à-dire que ce sont les artisans qui accompagnent les ménages en faisant évidemment une grosse partie des travaux. Alors, je dirais que pour ce qui concerne les artisans, au-delà de leurs compétences techniques absolument indispensables, hein, il faut qu'ils maîtrisent leurs gestes, qu'ils aient des savoir-faire qu'ils fassent correctement les travaux. C'est le minimum qu'on peut attendre d'eux. Ce qui apparaît vraiment fortement à travers cette étude, c'est que les qualités de savoir-être vont être tout aussi importantes. Et des deux côtés, c'est-à-dire comme vous disiez, les artisans vont rentrer pendant quelques semaines dans l'intimité d'une famille, d'un ménage, et donc on s'aperçoit que les chantiers qui se passent bien sont les chantiers où les conditions ont été mises en place de confiance mutuelle, d'écoute, de discrétion, de propreté, de respect de la vie des habitants de la maison pendant le temps du chantier. Après, sur la question d'autres accompagnateurs, qui seraient des accompagnateurs extérieurs à cet artisan ou cette équipe d'artisans qui vient faire le chantier, je suis beaucoup plus en questionnement et ça renvoie à l'introduction sur les rites de passage. C'est-à-dire que les vieux sages qui accompagnent les adolescents dans les rites de passage, leur objectif, c'est évidemment qu'ils s'en sortent grandis et sans trop de difficultés. Mais en même temps, pour que le rite de passage ait lieu, il faut qu'il reste extrêmement discret. Et donc, moi, je m'aperçois que les ménages et toutes les études que j'ai conduites, et pas seulement celles-là, ils sont extrêmement interrogatifs quant à un accompagnement qui ne serait pas simplement celui des artisans, en fait. Parce que ils ont besoin de rester maîtres de chez eux, maîtres de leur chantier, et ils sont extrêmement circonspects par rapport à d'autres avis extérieurs qui pourraient venir perturber leur manière de voir les choses. Même si on s'aperçoit aussi qu'ils sont noyés sous les conseils, sous les avis.
Bien sûr.
Noyés à tel point que parfois ils ne savent plus qui croire et à qui se fier.
Vous n'avez pas évoqué Viviane, mais on parle de chantier domestique, la présence de l'architecte.
Alors, si on parle de chantier de rénovation, et quand on regarde tous les chiffres qui sont disponibles sur cette question spécifique, l'architecte est globalement quasiment absent de ce marché. Et donc, en tout cas, sur les chantiers que j'ai étudiés, il n'y a jamais eu intervention d'architecte.
Donc on voit bien. Je vais. On en reparlera d'ailleurs tout à l'heure avec vous, Nadia, l'artisan. Ou on peut dire l'apériteur principal, ou apériteur principal, c'est celui qui va conduire finalement, qui va être l'artisan majeur, ou l'artisan qui est tout corps d'État, hein, parce que plus simplement, on va être très clair, artisan tout corps d'État, électricité, etc., on est tous passés par là, hein, avec, et en flippant sévèrement que les travaux iront à terme et solidement, etc. C'est intéressant, la notion de la charge mentale, on va en parler d'ailleurs sur le sujet. On voit bien, donc, quelque part, juste la question, c'est l'artisan, il y a forcément un artisan qui va se dégager dans tout ça, qui va prendre le lead dans le chantier où il y a plusieurs artisans. Quelque part, il s'est substitué, dans une certaine mesure, à la fonction que pourrait avoir, je dis bien que pourrait avoir, hein, le rôle de l'architecte, et celui de coordonner les travaux, de les penser et de conseiller.
Oui, oui. Alors effectivement, il y a des situations relativement diverses, entre effectivement des ménages qui vont avoir la chance de trouver dans leur entourage géographique éventuellement des spécialistes de la rénovation et tout corps d'État et qui effectivement vont prendre le lead et les libérer d'une partie du poids du chantier qui est celui de la coordination en fait, hein, parce que l'enjeu pour qu'un chantier se passe bien, se passe vite et se passe avec le maximum de qualité, c'est le fait que les artisans, enfin tous les corps de métier soient interviennent à temps, quand il faut, au bon moment, en collaboration les uns avec les autres, etc. Donc, soit effectivement, il y a un artisan qui prend le lead, soit c'est le maître d'ouvrage qui est le maître d'ouvrage qui est le maître d'œuvre mal perdu, en fait, hein, et qui a cette charge de coordination, de rappeler les uns et les autres, de s'assurer que l'artisan, que le plaquiste passe bien après l'électricien et pas.
On a tous connu ça. Alors justement, ça me permet de faire cette transition. Viviane, comment on peut bien gérer la charge mentale qui implique justement le chantier? On en a parlé tout à l'heure. Vous savez, quand les familles engagent un chantier, il faut savoir que, je le dis à nos amis, mais le coefficient de détention patrimoniale en France, il est de 1. C'est-à-dire qu'en fait, on achète sa résidence principale, c'est l'achat d'une vie, et les travaux que l'on fait, soit en primo-accession ou même en investissement futur lorsqu'on détient son bien, c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'on y met ses sous, on y met ses économies, et on n'a pas le droit de se planter, il faut être très clair. Comment ça se gère, ça, cette charge mentale qui est impliquée par le chantier, avec l'explosion des routines dans la vie quotidienne, le bouleversement, les rendez-vous inopinés, ce que vous venez de préciser, c'est tout à fait prosaïque, de suivre le chantier, disant, bah, attendez, je ne comprends pas, bon, je ne suis pas expert, mais ça, vous ne devriez pas le faire avant ou après, enfin, quelque chose, voilà. Comment ça se gère dans l'étude que vous avez menée, cette charge mentale?
Alors, déjà, je compléterai quelque chose que vous avez dit. Un chantier de rénovation important, comme ce que j'ai suivi, c'est on y met du temps, on y met de l'argent, voilà, mais on y met aussi beaucoup de rêves. Et ces rêves-là, ils sont très porteurs. Alors, la charge mentale, bon, je pense que c'était l'enseignement que je n'ai pas vu venir, en fait, dans cette étude. C'est parce qu'on perçoit bien que un chantier, il faut penser à tout, hein, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire il faut que la prise d'approvisionnement soit là, qu'on ait bien choisi les carreaux, que la livraison des fenêtres ait été faite, que les artisans viennent au bon moment. Donc il y a déjà la charge mentale vraiment liée à cette fonction de prise d'œuvre. Mais en fait, ce dont on s'aperçoit quand c'est un chantier en site occupé, c'est que tout le reste des routines explose. Et quand je parle de routine, c'est ce qui nous permet de vivre sans trop nous prendre la tête au quotidien. Et j'ai l'habitude de présenter cette notion de routine en disant quand vous faites la cuisine, quand vous êtes dans votre cuisine et que vous faites la cuisine, vous réfléchissez pas un quart de demi, dixième de seconde quand vous lancez la main vers votre paquet de farine dans le placard, parce qu'il a toujours été là, vous en avez besoin et vous êtes en train de faire autre chose en même temps et vous trouvez la farine sans y réfléchir. Quand vous êtes dans un chantier en site habité, que vous êtes en camping dans la salle à manger pendant que les artisans refont la cuisine, et ben ce paquet de farine, il est plus là. Et donc ce paquet de farine, il se multiplie par, enfin la recherche du paquet de farine et autres anecdotes du même genre, c'est 10, 20, 30, 40, 50 dans une même journée. Y compris le fait d'avoir oublié de sortir sa voiture le matin et les artisans sont arrivés entre temps, la voiture est bloquée et comment je vais chercher mon enfant à l'école. C'est-à-dire que tout explose, c'est pas simplement la maison, les murs, les carrelages et les cloisons et autres, c'est toutes les routines de la vie quotidienne qui explosent. Et avec ça, il faut garder son sens du chantier, son sens de l'humour, pas divorcer entre temps. Et garder quand même la trace. Donc c'est absolument épuisant. Et si on revient à la notion de l'accompagnement, en fait, ben là-dedans, je vois, voilà, quelle peut être l'aide, quelle peut être l'aide apportée là, alors que, et comment on peut gérer encore une personne de plus sur un chantier, alors qu'on n'en peut déjà plus avec tout ce qui s'y passe.
Merci beaucoup Viviane, vous restez connectée avec nous. On va passer à vous Jean-Paul. Jean-Paul Filliot, je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue, co-auteur de la recherche « Saisir le chantier par l'image ». Question, pourquoi on fait des photographies d'un chantier et que révèle-t-elle de ce temps particulier de transformation à l'aune de ce qu'on vient d'écouter, hein, cette charge mentale de stress, de son logement et de soi?
Oui. Alors moi, je ferais bien un petit écho à ce que Viviane a dit sur à la fois les rites et à la fois la routine, qui sont deux mots très intéressants parce que parfois, dans le sens commun, on les confond. Et la routine renvoie effectivement plus à ces questions d'automatisme et la ritualité est quelque chose quand même de plus conscientisé, de plus symbolisé, où les acteurs sont conscients de ce qui va se passer. Et je dirais que dans le cadre de cet accompagnement et de ces passages qui jalonnent le moment du chantier, on est dans une temporalité qu'il est nécessaire de matérialiser par l'image. Alors, ça ne peut pas ne pas être compris sans notre époque qui fait que, il y a les smartphones qui font que tout le monde prend des images de tout et n'importe quoi dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ça peut être vraiment n'importe quoi au sens où tout peut être pris en photo et n'importe quoi dans le sens où mais pourquoi j'ai pris cette photo, donc en latin
surtout qu'on en a sacrement les moyens, quoi.
Voilà.
Tout permet de prendre une photo, quoi.
Ce qu'il y a, c'est que avant les smartphones, il y avait évidemment d'autres appareils qui permettaient aux gens de prendre des photos et en fait il faudrait faire l'histoire de la photo de chantier, comme on fait l'histoire de la photo de famille, je pense.
Ça serait génial.
Parce qu'en fait, ça serait... il y a un très bon ouvrage de Irène Jonas sur la photographie de famille, où elle fait cette histoire et elle montre comment, dans les albums et avec le numérique, un certain nombre de choses changent. Et en fait, quand on s'est confronté, nous, aux images de chantier domestique, je dirais pourquoi on dit nous, parce qu'on est trois, et puis on est trois de disciplines et professions très différentes, donc ça alimente un peu la richesse de l'étude, de mon point de vue en tout cas. Et donc le fait de prendre des photos, c'est simplement l'acte de photographier est une manière de matérialiser une histoire, un passé qui a eu lieu, et puis de pouvoir après se retourner sur ce qui s'est passé et sur les différentes étapes. Alors l'étude que j'ai faite donc avec une plasticienne qui s'appelle Jade Tang et qui est à l'origine un peu de la recherche parce que elle faisait elle-même des photos de chantier en tant que plasticienne, photos, vidéos, et puis des installations avec la dimension créative des artistes qui, à partir des images rencontrées sur les chantiers, inventent des formes qui finissent dans des expositions. Et donc Jade a été invitée aux Assises de l'Habitat en 2017, si ma mémoire est bonne, un espace d'exposition avec ses photos. Et nous étions tous les trois avec donc Claire Cueny, qui est historienne de l'art, et moi-même sociologue-anthropologue, pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on va faire de cette question du chantier domestique. Parce que ce qu'on constate quand même, c'est que quand on parle du chantier aux gens, ils pensent à l'espace public.
hein, les chantiers dans l'espace public. Et quand on fait un petit retour sur les photographies de chantiers,
tout à fait.
On la tombe grue, sur des photographies,
la
grue, les photos d'Adjet sur
la toupie
Paris,
qui arrive,
voilà.
qui dépose le
et
béton.
Et les photos de chantiers
très juste.
De rénovation domestique, on constatait qu'il y en avait très peu.
Ouais.
Donc on était ravis, nous, on se disait, tiens, on va faire une étude avec un peu de nouveauté dans l'histoire. Et donc, aux Assises de l'Habitat, on a créé un espace, alors grâce à Leroy Merlin Source qui a permis ça, où on avait un bureau et on avait nos ordinateurs, on avait des images de chantier à l'intérieur, des gens passaient, on discutait, on leur demandait bah, si vous aviez des images de chantier, est-ce que vous les donneriez, etc., etc. Et petit à petit, on a proposé cette étude à trois sur l'image de chantier en se disant, tiens, finalement... les artistes s'intéressent aux images de chantier en partant du travail de Jade Tang, mais on a découvert que d'autres artistes s'y intéressaient. Moi, en tant que chercheur qui ai travaillé sur la maison, alors avec un ouvrage que j'ai publié il y a quelques temps sur le désordre domestique, alors qui a à voir un peu aussi avec les histoires que Viviane racontait sur comment ça bouscule, parce que transformer sa maison, il y a toutes les catégories du changement qui peuvent être interrogées. Et le chantier, on est plutôt du côté du bouleversement. Il y a plein de gens qui font des métaphores sur le chaos, sur la guerre. C'est Beyrouth. Il y a des gens qui disaient ça à l'époque.
Ah oui.
Et puis, c'est maintenant le tsunami. On invente des métaphores liées aux catastrophes qui arrivent dans
le monde. En fait, il y a eu plusieurs... Oui, c'est Beyrouth, après c'est Bagdad, et
voilà,
après
et puis, c'est
Kaboul, et après c'est...
Voilà,
Non, mais ce qui est bien, c'est que l'illustration, elle est ancrée dans le contemporain, dans l'histoire contemporaine.
Voilà, il y a la métaphore de la guerre, il y a la métaphore du chaos, il y a alors avec le no man's land, enfin plein de choses qui sont... des formes extrêmes de l'habiter. C'est-à-dire, quand on habite, on est plutôt dans l'ordre. Et alors, c'est intéressant parce que le mot ordre, c'est une petite parenthèse quand même, mais le mot ordre et le mot rite ont la même origine indo-européenne. Donc, le R et le T de rite sont le R et le D de ordre. Et donc, la ritualité, c'est censé quand même rappeler la création d'un ordre pour conjurer le désordre. Mmh. Et dans la transformation de la maison, on a toujours ce jeu entre ordre et désordre, alors en partant du rangement quotidien, qui est la chose la plus banale, jusqu'à la transformation de la maison par le chantier. Alors ce que je voulais dire juste après ce que j'ai commencé à dire sur notre travail, c'est que constatant que des chercheurs faisaient des images de chantier, domestiques, des artistes, on s'est dit, les habitants en font plein. Et puis on s'est dit, ça serait intéressant de voir comment les artisans aussi font des images de chantier, parce que quand ils prennent des photographies pour repérer à tel endroit où ils ont mis tel aspect, donc avec l'idée quand même que la photographie va être une preuve du déroulement technique, alors là aussi il y a une logique des étapes du chantier chez l'artisan, hein, c'était comme ça. On montre aux habitants maintenant avec le smartphone, je vais vous montrer comment. Alors, ils montrent parfois un chantier qui a été fait dans un autre endroit pour dire, c'était comme ça, donc ça sera à peu près comme ça. Ok.
Oui, j'ai eu un entrepreneur et c'est exactement ce qu'il a fait.
Voilà.
À deux rues de ma maison, il m'a dit, regarde.
Le smartphone l'a changé énormément de choses sur la possibilité de communiquer d'une part, et puis les durées courtes, donc des temporalités très courtes sur la manière de traiter le chantier. Donc, ça nous a beaucoup intéressé.
Il y a presque un rapport testimonial, c'est-à-dire que par testimonialité finalement interposée, c'est-à-dire regarde comment ça s'est passé, ça c'était très bien, etc.
Alors du coup,
du début au final.
On a la matérialité de la photographie nous dit à la fois la possibilité de mémorialiser la chose, donc sur le côté souvenir, sur le côté qui peut être très affectif chez les habitants par exemple, ou sur le côté juridique à l'autre bout, parce que la photographie peut faire preuve dans le cas où il y a une contestation,
absolument,
où il y a une fuite, quelque chose de mal posé.
Et d'ailleurs, on dit aux gens, faites des photos de chantier.
Voilà, c'est ça. Et actuellement, d'ailleurs, c'est peut-être des choses qui vous arrivent à vous. Moi, je l'ai fait récemment, mais à certains artisans, pour des petites choses concernant une fuite sur le toit, parce qu'il y a eu une tempête dans la ville où j'habite, une tempête de grêlons le 23 juin, par exemple, une petite fuite, j'ai envoyé des photos, voire une vidéo de la goutte qui tombe. Et il y a plein de gens qui commencent à faire ça, soit des photos par mail, soit directement par SMS, etc. Donc ça, c'est une chose très intéressante, mais qui ne change pas, je pense, le fait que quand il y a chantier, les gens ont besoin de photographier, et pour différents motifs. Alors, dans notre rapport de recherche, on a joué sur le mot motif, qui renvoie à la fois aux raisons, Hein, pour quel motif vous faites cette photo? Et le motif, c'est aussi l'image, la figure. Donc on a dégagé les motifs raison et les motifs figure. D'une part, pour voir un peu pourquoi ces gens se faisaient des photos. Alors, je ne vais pas développer énormément, mais en gros, on était parti sur l'idée que chaque métier allait prendre des photos par rapport à sa culture professionnelle. Le chercheur, pour documenter sa recherche. Là, on fait plein de photos quand on fait du terrain.
Bien sûr.
Viviane le sait,
bien
anthropologue. Bien on fait tous des photos sur le terrain. Ensuite, les artisans pour les aspects techniques. Les artistes pour se donner des idées pour leur future création. Et puis les habitants pour le souvenir. Alors, on a essayé de vérifier ces hypothèses qui se vérifient à peu près carrément, mais on a constaté que les habitants faisaient aussi des photos pour des preuves techniques, pour savoir où passent les gaines, pour si plus tard il y a des travaux à faire, je sais que je peux percer dans ce placo, et certes, c'est à cet endroit-là. Les chercheurs faisaient des photos de mémoire, de souvenirs de terrain. Les artisans, quand ils ont fini le chantier, les ouvriers posent, ils font une pause comme ça, et on prend la photo comme entre amis. Comme quand on fait une... Donc il y a plein de marques de convivialité. Ouais.
Alors, ou on fait un gigot bitume.
Un point commun entre l'étude de Viviane et la nôtre, c'est que les marques de convivialité et le fait qu'on boit, on mange, on reçoit les amis, on fête...
Le propre...
Ça renvoie beaucoup à la réalité du chantier. Donc ces photos-là, on les a évidemment prises. Et dans les représentations communes, montrer des gens qui mangent ensemble... Ça ne renvoie pas à de l'image de chantier.
Eh ben non.
L'image
non,
de chantier sûr. Qu'on a en tête, c'est soit les gravats, soit une pièce vide avec un escabeau, des outils qui traînent.
Les charpentes apparentes.
Voilà, ou les placos qui viennent d'être posés pour montrer l'espace est vide, l'ordre de l'habiter arrive.
Et revient, cette fois-ci.
Tout ce qui existait, les gravats et tout ça, c'est fini. Donc on peut réhabiter. Et là, c'est le nouvel ordre. On va pouvoir mettre ses meubles, on va pouvoir changer des choses. On pourra retrouver les meubles qui vont permettre de continuer nos routines. Que les habitudes d'avant doivent être réinventées dans le nouvel espace. Donc il y a des choses très intéressantes sur la relation entre ordre et désordre et les négociations entre habitants pour voir effectivement comment on va créer ces ordres-là.
Alors vous êtes également co-auteur de la recherche Histoire de projet.
Oui.
Vous avez suivi d'ailleurs, me semble-t-il, pendant une année, le projet d'aménagement de deux ménages en région parisienne et lyonnaise, c'est bien ça?
C'est ça. Nous étions deux là encore.
Alors, de Hélène l'intention à la réalisation d'un projet de rénovation de son logement, pourquoi certains habitants choisissent-ils de réaliser les travaux eux-mêmes ou de les confier à des artisans qualifiés?
Alors ça, je pense que c'est une problématique que le roi Merlin Source traite depuis un moment et qui
indépendamment de la question économique, hein,
Justement, je pense qu'il faut qu'on prenne en compte le fait que si on trace un peu les possibles, on va se dire il y a des gens qui délèguent tout à des professionnels. La transformation de leur maison, et là, la question économique se pose. À un moment donné, il y a des gens, ils sont occupés par leur travail, enfin, ils ont plein de trucs à faire, ils cherchent les artisans qu'il faut, ils payent les factures, et puis basta.
Bien sûr.
À l'autre bout, vous avez les gens, alors Hélène Subrémont, avec qui j'avais fait cette recherche en 2013, avait rencontré quelqu'un qui bricolait, mais à un point pas possible, c'est-à-dire que, mais y compris, il était locataire, pourtant, d'une maison, et ça allait jusqu'à couper les tuyaux de canalisation pour changer la cuisine en chambre d'un des deux enfants, il ne savait même pas lequel des deux, et de refaire une cuisine ailleurs. Donc là, on a affaire à des gens qui sont, alors qu'on soit un passé de bricoleur qui a pu être appris dans la famille, donc une socialisation masculine par exemple, qui fait que je bricolais avec mon oncle, même les chercheurs qu'on a rencontrés nous ont raconté le rapport qu'ils ont au chantier et au bricolage dans leur propre famille. C'était très intéressant.
Ah ouais.
Et puis vous avez quand même la majeure partie des gens aujourd'hui qui sont entre les deux, c'est-à-dire qui font faire par d'autres. Alors ça peut être les artisans, mais ça peut être aussi les membres de la parenté ou du réseau amical, parce qu'il
y a un savoir.
Il y a un savoir.
J'ai un pote qui est maçon, qui est électricien. J'ai confiance en lui.
Voilà, il y a le réseau de connaissances, c'est-à-dire les potes des potes.
Ou un mec super bricoleur qui a refait la salle de bain. On s'est dit tiens, fais une chose. Enfin, voilà.
Alors là, vous avez vu qu'on masculinisait le discours. On peut tout à fait avoir malgré tout. Et on en a rencontré, et on a des photos de chantier où les femmes sont là.
De plus en plus.
Alors je sais pas, de plus en plus, on n'a pas de statistiques là-dessus, mais en tout cas, Bon, les magasins de bricolage ont fait quand même de gros efforts pour nous montrer des femmes au travail. Alors, ça a commencé avec la bimbo et la perceuse, hein, mais maintenant on est quand même passé dans d'un peu plus soft.
On n'a pas attendu Valérie Damido.
Non, c'est ça. Voilà, et puis, il faut voir les images de publicité, Le Roi Merlin ou d'autres, comment ils mettent en scène le fait qu'on a actuellement, dans la sociologie de la famille, des choses qui se sont passées et où les questions de genre se posent de manière un petit peu moins
D'ailleurs, il y a une super bipolaire. Pub, je ne sais pas si vous l'avez vu, une super pub où vous avez une personne une jeune femme qui rentre et qui dit à son artisan qui refait le plafond ou je ne sais pas quoi, qui lui dit, justement, là, il faudrait changer le placo, il faudrait changer ça, etc., etc. Et à un moment donné, le type, il pleure, il dit, je ne suis pas capable d'assurer, etc., vous êtes trop compétente, il s'en va comme ça. Il y a comme si, finalement, la notion de savoir qui incombait, faut dire la vérité, au côté masculin, je refais la maison, je sors les charpentes, de moins en moins, en fait. On voit bien qu'il y a l'irruption, finalement, de cette notion.
Je ne suis pas sûr que ça soit de moins en moins. C'est les hommes continuent. Femmes sont un peu plus là. Et puis, il y a effectivement quelques hommes qui ne sont pas du tout bricoleurs et qui sont fiers de l'annoncer, de la même manière qu'il y a des femmes qui sont fiers de dire en cuisine, je suis nul et mon mari fait ça très bien.
Quand les gens le font eux-mêmes, à quelles difficultés ils sont confrontés, en général ? Est-ce que vous avez pu identifier ces points ?
Alors, ce que je dirais, c'est que vous avez dit qu'on a suivi pendant un an, et en fait, on s'était dit que le projet tel qu'il avait été présenté par les personnes, alors c'était plutôt du côté de Villeurbanne où j'étudiais le terrain en question, qui était la réfection d'une salle de bain de 2 mètres sur 2, donc pas grand-chose, mais quand même, refaire complètement. Et le couple avait décidé de le faire ensemble. Ils sont allés chercher le père de monsieur, un plombier qu'ils avaient et qui était très bien. Donc ils ont payé le plombier. Le père a aidé à faire le carrelage et à initier son fils. L'épouse s'est mise aussi à faire des choses. Et en fait, on s'est aperçu que le projet qu'ils avaient prévu pour un an, en fait, avait duré un an et demi parce qu'il y a des choses qui sont arrivées pendant le chantier qu'ils n'avaient pas imaginées.
Clairement.
Mais des choses toute simple, hein.
Mais ça arrive souvent, ça.
Leurs deux filles qui leur disent, et nous, comment on va faire pour se regarder dans la salle de bain? Parce qu'en gros, le miroir était à hauteur d'adulte. Et en fait, ils ont décidé de poser trois petits miroirs sur la face intérieure de la porte.
D'accord.
Mais ça, c'est carrément venu une fois que tout était commencé à déjà être bien, bien rénové. Donc, transformer sa maison. Il y a le pôle, la structure architecturale elle-même, avec les chantiers où on bouleverse tout, où on casse les cloisons et tout ce qu'on connaît des possibilités de casser, de refaire et de refaire solide. Et puis il y a les petites choses comme les trois petits miroirs des petites filles ou d'autres choses qui vont être une espèce d'agrément de dernière minute. Tiens, si on mettait ça là, ou alors si au lieu de clôturer cette chose comme ça, si on le laissait comme ça. Parce que ça peut arriver dans les chantiers. Finalement, je vais le laisser comme ça.
Oui, parce qu'en fait, il y a un principe de réalité qui intervient pendant le chantier, qui du coup devient plus prosaïque ou efficace par rapport à une idée ou à un plan.
Quand on s'intéresse aux projets en général, même les projets professionnels,
on idéalise un peu aussi.
Projet, c'est pas un programme. Un programme, c'est écrit à l'avance. Un gramme, c'est la lettre. Le projet, on jette devant. Et donc, a priori, on n'a pas défini toutes les étapes. On pense que ça va se passer comme ça. Il y a beaucoup de régulation. Il y a des oublis, il y a des abandons.
Alors, surtemps, le surtemps, c'est-à-dire il y a plus de temps, souvent.
Voilà.
Et un surcoût.
Alors, un surcoût...
Est-ce que cette notion est apparue dans votre étude ?
Vous ne vouliez pas qu'on parle des questions économiques et finalement, on y vient. Mais c'est intéressant parce que finalement, ça fait partie des régulations. Est-ce qu'on va, si on veut changer ça comme ça...
C'est plutôt de ce prisme-là que j'aimerais qu'on les note, c'est que ça fait partie des éléments qui, du coup, donnent des arbitrages sur cette notion. Vous avez évoqué les miroirs. Par exemple, je prends un exemple très prosaïque. Vous avez évoqué les miroirs, vous savez, pour que ce soit à hauteur d'enfant. Si le coût dépasse un cadre budgétaire, il y a forcément des arbitrages qui rognent aussi dans l'usage, après, la qualité ou l'efficacité qu'on attend de son chantier de rénovation.
Tout à fait. Alors,
et donc, peut renoncer à un plaisir ou à un confort pour des raisons purement économiques. Ça s'entend.
La chance, c'est que pour des petites choses comme les miroirs ou même d'autres choses, c'est que vous avez quand même...
Ça reste marginal.
D'une part, Alors ça reste marginal, ça reste du moindre coût quand même, parce que on peut trouver actuellement des miroirs autocollants.
Oui, mais le moindre coût, Jean-Paul, il s'additionne.
Oui,
moindre
évidemment.
Coût à droite, moindre coût à gauche.
Évidemment, évidemment.
Et à la fin, ça représente
certaines
un coût
familles, global. Certaines familles, ça peut coincer. Alors après, ouais. Il y a aussi toute la récupération. Il y a les sites quand même actuellement de dons de meubles ou d'autres choses. Il y a les services à la personne qui peuvent passer par une association avec un coût qui est peut-être moindre que si on allait chercher l'artisan qui coûte trop cher. Et puis il y a, puisque j'ai parlé de la parenté, il y a malgré tout des ressources familiales possibles
bien
qui
sûr.
Peuvent être de l'ordre du prêt ou du don sur une période donnée. Et donc toutes les régulations dont j'ai parlé, en fait, il y a de l'économique, il y a du social, il y a aussi du culturel, il y a du juridique.
Bien sûr.
Et
ne
donc
serait-ce
tout
que
ça,
par l'existence de la photo, vous l'avez évoqué. Hein,
voilà. Et tout ça renvoie à la complexité dont vous avez parlé en introduction, en fait,
oui,
parce que
voilà.
Il s'agit pas de dire il y a un avant, un après.
Voilà,
comme contrat
d'assurance, un contrat d'assurance, par exemple, sur la révélation, par exemple, de vice caché, sur la dommage ouvrage, une garantie décennale. Enfin, des sujets qui sont parfois prosaïques. Pas toujours hyper sexy à penser sur le principe, mais terriblement efficace quand le problème survient.
Bien sûr.
Oui. Merci Jean-Paul Filliot. Vous pouvez rester avec nous, on va en passer dans cette deuxième partie de cette table ronde que je vais appeler les adaptations face à la vulnérabilité. C'est un sujet important. Vous êtes toujours avec nous, bien sûr, Viviane Amont, vous êtes en duplex. En Provence, si vous voulez intervenir, c'est quand vous voulez. Je vais passer à vous, Gaël Guillou. Alors, Gaël, vous êtes designer, co-auteur, co-designer et chercheur en design, hein, je précise aussi. Vous avez raison de l'ajouter. Et co-auteur de La Santé Habitée. Bon. Moi, je trouve ça super parce que, et vous l'avez fait en deux parties, hein, au domicile d'enfants malades et design d'un écosystème coopérant, je voudrais qu'on en parle ensemble. La notion de santé, voilà, j'ai pas mal d'années de recul dans le monde de l'habitat, de l'immobilier, de l'urbanité. Cette notion de santé, j'ai l'impression qu'elle apparaît beaucoup plus dans notre époque. Vous le confirmez ça ou pas? Cette notion d'approche de la santé habitée. Ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà pris en compte ou pas?
Je pense que c'est quelque chose qui était déjà là, peut-être d'une façon un petit peu différente. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais quand même préciser que ce chantier, on l'a fait à plusieurs aussi.
Oui, bien sûr.
Qu'on a eu un double regard, à la fois de designer et d'architecte avec Nadia, et que du coup on est allé rencontrer des habitants malades et des cohabitants qui les aidaient en fait, qui habitaient avec eux et qui les aidaient dans la maladie et les soins. Donc je pense que les temps, enfin il y a une évolution du fait simplement que on va dire que les pouvoirs publics se sont engagés vers ce qu'on appelle le virage ambulatoire, où du coup on passe de moins en moins de temps dans les espaces de santé collectifs que sont les hôpitaux, par exemple. Et que du coup, il y a une partie de la santé qui se fait de plus en plus au domicile, puisque globalement, souvent, vous rentrez le matin à l'hôpital, vous subissez votre intervention et vous repartez chez vous le soir. Et ensuite, vous avez du coup un certain nombre de traitements, d'accompagnements. Il peut y avoir des interventions au domicile.
Il y a même cette formidable machine... Vous savez, pour les opérations cardiaques in situ, qui permet en fait de jouer le rôle, de débrancher avec un cœur artificiel dans la rue ou dans la maison. D'installer. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage extraordinaire.
Alors non, je n'ai pas vu. Mais...
Qui permet de le faire. C'est une machine qui permet de suppléer lors des opérations cardiaques, lorsque les personnes ont besoin d'une réanimation pour ne pas perdre ce temps précieux. Donc du coup, la maison devient le lieu aussi de l'expérimentation ou l'habitat en général.
Alors nous, dans ce chantier, on a justement essayé de regarder cette santé du coup qui, on va dire officiellement, tend à se déplacer au domicile, comment les habitants malades et leurs aidants s'appropriaient ça. Alors ce qu'on peut peut-être dire d'abord, c'est que les habitants malades, finalement, le vivent plutôt bien, parce qu'ils sont plutôt contents d'être à la maison, par opposition peut-être à de temps à l'hôpital ou des temps à l'extérieur, dans des espaces de santé qu'ils vivent pas très bien, où l'expérience actuelle n'est pas très très bonne, dû au fonctionnement aujourd'hui de la santé. Et à l'inverse, les aidants, eux, sont beaucoup plus rassurés quand leurs malades, entre guillemets, sont dans les espaces de santé ou sont pris en charge par des professionnels.
Bien sûr, c'est clair.
Donc il y a cette quand même dualité au sein du domicile. Nous, notre chantier, on a rencontré des personnes qui étaient malades, soit sur des maladies qui du coup étaient installées et puis évoluaient dans le temps, soit sur des maladies temporaires qui disparaissaient et avec un traitement. Dans les personnes rencontrées, bien sûr, elles appréhendent cette arrivée de la maladie et des soins au domicile, mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'anticipation et du coup, elles font face et elles gèrent en fait au moment où ça arrive, et elles gèrent dans le domicile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles sont confrontées aux conséquences de la maladie et des soins dans ce domicile, mais finalement, ça leur permet de penser, mais pas forcément d'agir ou pas d'agir tout de suite. C'est-à-dire que le passage à l'action pour faire évoluer le domicile, pour faciliter finalement le soin et la maladie, c'est pas comme les antibiotiques, c'est assez loin d'être automatique.
C'est clair.
Donc, du coup, et on peut même dire que des fois, la gêne occasionnée, elle va être tellement... ils vont attendre que la gêne occasionnée soit extrêmement forte et puissante pour passer à l'action. C'est-à-dire qu'on a vu des personnes qui, quand elles décidaient d'agir, finalement, la maladie avait déjà passé une autre étape et les questions qui se posaient et les solutions qu'ils devaient apporter, quand elles décidaient de les mettre en place, c'était déjà fini et qu'il fallait repenser en fait la solution qui devait se mettre en place. Donc du coup, il y avait toujours un métro de retard.
Alors le logement n'est ni immédiatement ni systématiquement perçu comme un lieu propice pour accueillir justement le combat contre la maladie. Vous avez rappelé tout à l'heure très justement que c'est un ouvrage collectif qui a été mené par Frédéric Mondestin et vous, Nadia Samy. Nadia Samy, vous êtes architecte, donc AEMO, usage, voilà, qu'on a un truc que j'aime beaucoup. Mais c'est intéressant parce que pour moi, chaque significatif et chaque mot a son importance, c'est important. En plus, il y a deux mots, il y a « us » dans le sens de coutume, il y a « âge » dans le sens d'habiter. Et vous, vous êtes spécialiste de l'accessibilité, etc. On a presque l'impression que, pour des personnes qui sont à mobilité réduite, ou des personnes qui sont en situation de handicap ou malade, on a presque l'impression que dans l'habitat, il y a presque des parcours balisés, vous voyez ce que je veux dire ? Des endroits auxquels ils n'ont pas accès, d'autres endroits auxquels qui leur sont condamnés, puis des endroits qui sont balisés, mais uniquement pour eux. En écho comme ça à l'intervention de Gaëlle, est-ce que, je pose la question à l'architecte que vous êtes, est-ce que la maladie, elle a sa place dans l'habitat ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous arrivez sur une étude comme celle-ci, comme nous sommes très humains, tous autant que nous sommes, avec tous nos défauts, nous amenons avec nous des idées reçues. Et on est arrivé comme des fleurs en se disant maladie, rangement, médicaments, piqûres, poubelles, comment ils gèrent tout ça, où est-ce qu'ils rangent tout ça, oui, les placards. Et la première claque que j'ai prise, c'est il n'y a pas la place pour la maladie. Et avec Gaëlle, on s'est très rapidement regardé en se disant mais en fait, non. Cette hypothèse-là, on va la balayer très vite parce que la maladie ne vaincra pas. Donc, c'est d'abord une bataille psychologique. La maladie ne s'installera pas et ça se révèle être factuel dans les murs, dans les logements. C'est-à-dire que la maladie, elle restait dans des cartons. Les poubelles sont sur les balcons, les cartons sont dehors, mais la maladie ne rentre pas dans les placards. Nous, on est arrivés comme des fleurs en se disant, il va falloir repenser le placard, il va falloir repenser la pièce, il va falloir repenser les entrées.
Non, non, non.
Rien du tout.
Non, on ne veut pas de ça.
D'accord, rien du tout. La maladie ne vaincra pas. Et c'est là qu'on voit qu'on sort complètement de l'approche médicalisée, de l'approche, je dirais, de l'ingénieur, du penseur, du politique, du médecin, qui range tout, qui cloisonne tout, et qui ne se penche absolument pas sur le vécu de l'habitant lui-même, sur le ressenti de l'habitant, de ce que eux appellent le patient, qui reste pour eux un patient. Donc non, je ne débarque pas, je ne pose pas mes valises avec tous mes produits de soins en disant bah, dans cette étagère, dans ce placard, sur cette étagère, vous mettez ça, là ça sera pratique, etc., etc. Ça disparaît tout de suite. On a eu une maman de plus de 70 ans avec sa fille de 50 ans, l'appartement était très grand, eh bien, elle descendait tous les jours à la cave pour aller chercher les pansements, les couches, etc.
Non.
Il n'était pas question que de trouver une place pour ces encombrants-là dans le logement.
Est-ce que c'est parce qu'il rappelle, justement, cette maladie ? Est-ce que le fait de laisser une place, je fais un peu de philo là, est-ce que le fait de donner une place à cette maladie, quel que soit le lieu, mais dans l'habitat quotidien, c'est finalement non seulement vouloir l'accepter, mais lui dire, bah, puisque t'es là, bah, t'y restes.
C'est de la psychologie.
Eh
c'est-à-dire
oui,
que c'est violent de dire et de voir tous les matins, quand je me lève, ça. Ah, la maladie s'est installée, la maladie est en train de gagner, la maladie va rester, il n'en est pas question, la maladie ne s'installera pas.
Peut-être pour compléter ce que dit Nadia,
Miguel.
C'est qu'il y a quand même quelque chose de très temporaire, c'est-à-dire que la maladie peut passer, mais elle est temporaire. Et donc, du coup, elle prend souvent... elle va investir des lieux temporaires ou des choses temporaires. C'est ça qui est intéressant. Mais malgré tout, ce qu'on observe quand même tout au long de l'étude, c'est que même s'ils ne veulent que du temporaire, elle finit quand même par s'incarner dans du quotidien, dans des pratiques. Et on voit, par exemple, sur des parcours, je pense à la maman et cet enfant qui était malade, où il y a quand même des lieux qui vont recevoir des choses. La chambre de l'enfant, c'est la chambre du super-héros, avec des super-héros dessinés,
oui.
Avec des armes pour vaincre la maladie, avec
oui.
des peluches qu'on tape parce que c'est la maladie. Il y a, comme
très
le disait
oui.
Nadia... ces cartons qui sont situés entre le lit et l'armoire dans une zone de passage et qui resteront là et qui ne rentreront pas dans l'armoire. Il y a la chambre des parents...
Oui, parce que normalement, ils n'ont pas vocation à rester.
C'est ça.
Il y a la chambre des parents qui est le lieu de soins. C'est surtout pas la chambre des enfants. Il y a des protocoles d'hygiène qui apparaissent qui n'étaient pas forcément là oui. avant. Voilà, et il y a aussi des lieux qui vont être des lieux de la relation où on préserve en fait la relation de la famille qui essaie de faire fi aussi de ce moment de l'arrivée de la maladie et des soins.
La notion de sanctuarisation est très importante. Il y a des lieux dans le domicile
de sanctuarisation,
qui sont sanctuarisés
dans lequel
la maladie ne rentre pas.
C'est alors exemple
la chambre de l'enfant. Il ne recevra jamais ses soins dans sa chambre. C'est sa chambre.
Oui.
Mais si on revient à des adultes, la chambre d'amis, j'y recevrai mes soins. Le salon, j'y recevrai mes soins. Ma chambre à coucher, je n'y recevrai pas mes soins.
La salle de bain.
La salle de bain...
un lieu où on est en parfaite intimité, on est d'accord.
Oui.
Hein, où apparaît le principe de... Je prends à dessein la nudité. Hein, le fait de se représenter sans phare. D'être démaquillé, sans phare, etc. Est-ce que ça peut s'y prêter ?
Alors,
c'est pas
parce qu'on a tous une armoire à pharmacie. Ouais.
Mais oui et non.
Dans la
c'est pas un lieu qui est vraiment ressorti comme étant un lieu.
Ah, c'est pas un lieu.
Ça n'a pas été le lieu de stockage.
Il y a quelquefois une étagère dans
en
un
bas.
Placard, dans la salle de bain,
mais oui.
qui va être dédiée, mais qui est quand même souvent connectée au départ, c'est-à-dire au moment où on doit se faire hospitaliser pour un certain temps, où on va préparer la trousse
d'accord.
de toilette ou les éléments
oui,
qui vont partir.
Ouais.
Mais on n'a pas, dans l'étude qu'on a fait en tout cas, d'éléments qui montrent que la salle de bain est un lieu en particulier.
C'est pas le lieu de
l'armoire
à pharmacie, entre guillemets.
Alors, le seul endroit où on l'a trouvé... C'était la petite étagère en bas planquée. C'est-à-dire, je ne veux pas le voir. Symboliquement et psychologiquement, c'est très important.
C'est chez moi où vous êtes allé, alors. Parce que moi, elle est en bas, à gauche.
Et voilà.
Et dans le lieu.
Mais vraiment, dans un tiroir, en bas, à gauche.
Voilà, c'est planqué, c'est écrasé, c'est je ne veux pas te voir, je te marche dessus, t'étouffe, je ne te connais pas, je ne te reconnais pas.
Ouais.
Et ça doit se respecter. Et on est dans un milieu de l'architecture du bâtiment qui ne respecte pas ça. Et on est dans un milieu du soin. Qui ne respecte pas ça. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on regardait vraiment ça pour la première fois du point de vue de l'habitant et non pas du soignant qui rentre dans les domiciles.
Il y avait aussi.
C'est intéressant, pardonnez-moi Gaël, je voudrais laisser l'intervention. Jean-Paul, vous voulez intervenir rapidement, mais
non,
pour
c'était
illustrer.
Une question que je me posais par rapport au designer, comme Nadia a évoqué la claque qu'elle a prise, tout ce que vous dites là, alors il y a une partie des réponses qui ont été données, mais le fait qu'à un moment donné, le designer se projette peut-être, alors je me fais des représentations peut-être très très stéréotypées du designer, hein, je m'en excuse, mais. Le fait de se dire, bon, bah, il va falloir qu'on réaménage les placards et que dans ta tête, il y a déjà des choses qui se passent sur comment réaménager ou faire du design qui soit adapté à cette situation-là. C'est-à-dire, par rapport au projet dont on parlait tout à l'heure, de projeter ton métier sur une situation, alors certes que tu connais pas encore, mais et est-ce qu'il y a une claque dans le fait de voir que tout est à l'extérieur et finalement pas dans les placards au début?
Alors, moi, j'appréhende, du coup, peut-être. Je suis peut-être pas le designer typique parce que du coup, moi, je suis plutôt à regarder ce qu'ils vont me raconter. En plus, dans le chantier, on essayait de dessiner, on essayait de schématiser ce qu'ils nous racontaient devant eux et ils regardaient ce qu'on faisait. Donc, c'était aussi un moment qui pouvait être très tendu. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand même, pour une grande majorité, ils avaient fait des choses un petit peu par eux-mêmes. Comme aller acheter une table à roulettes à la brocante parce qu'elle est jolie, mais en même temps, elle permet de poser le respirateur qui accède à la personne. Voilà, il y avait des aménagements qui avaient été faits ou pas d'aménagement, c'est-à-dire qu'on avait reçu avant nous des ergothérapeutes, des architectes, des gens qui leur avaient préconisé des trucs, mais il n'y avait pas le passage à l'acte n'était pas fait. Mmh. Donc moi j'ai pas après bien sûr quand on regarde on se dit bah là il faudrait faire ça, mais c'était des gens qui quelque part quand on n'a pas eu de difficulté à leur faire prendre conscience, parce que je pense que c'était déjà un peu là, aussi parce que, par exemple, sur l'ouverture de la cuisine, je crois qu'un des gros sujets, c'était la mobilité, c'est désencombrer l'espace pour créer de la mobilité. Il y avait des trouvailles, il y avait du génie, il y avait des gens qui avaient posé des roulettes sur la majorité des meubles du salon, pour du coup bouger les meubles et permettre au père de bouger. En fait, plus facilement. Super. Et donc, il y avait vraiment des vraies trouvailles. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet, c'est que, oui, on peut projeter des choses, mais qu'eux-mêmes étaient très innovants dans la façon d'amener des objets, de réutiliser des objets. Peut-être, ce qui m'a peut-être un peu surpris, c'est que j'avais peut-être l'appréhension que l'objet médicalisant ou médical qui sert au traitement ou qui... j'avais la sensation qu'il serait mal vécu, plus mal vécu que ce qu'il n'était. Et en fait, j'ai pas eu cette sensation-là. Mmh. Que j'ai pas eu cette sensation que l'objet médical était si mal vécu que ça, puisque du coup, l'intégrait dans quelque chose, quelque part, il le customisait d'une façon ou d'une autre, en jouant sur d'autres objets ou en faisant des associations, il le customisait en fait, à leur façon.
Nadia, vous voulez ajouter?
Oui, alors ça me permet de faire le lien avec la notion de travaux de tout à l'heure. Quand Gaël dit il y avait des archis, des ergothérapeutes qui étaient passés avant nous, qui leur avaient donné des conseils, des artisans qui étaient passés. En fait, tous, sans exception, étaient passés avec un regard technique. Dire l'ergo a dit bah, pour vous faire soigner, il y a besoin de ça, 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 il y a besoin d'un rail, il y a besoin que vous rehaussiez le toilette. L'artisan a dit bah, écoutez, moi, je peux vous mettre un grand bac à douche. L'archi a dit ah, bah, il faut pousser les murs. Mais personne n'a parlé du sensible et de la sensibilité des gens. Personne ne leur a parlé de leur histoire. Personne ne leur a demandé qui ils étaient avant et qui ils sont maintenant. C'est-à-dire qu'en arrivant sur site, quand on dit à moi en qualité d'usage, c'est d'abord de la psychologie que l'on fait.
Quand on rentre chez
les gens, la première chose qu'on
absolument.
Leur demande,
préoccupation
c'est,
centrale.
C'est qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce que vous aimiez faire avant et que vous aimeriez continuer à faire aujourd'hui? Et du coup, ils nous ont regardé avec des grands yeux, disant, mais on ne nous a jamais parlé de nous, on ne nous a parlé que de la maladie, des outils dont on avait besoin pour nous aider à nous lever ou à nous laver, à nous soigner, à nous retourner comme des crêpes. Mais on ne nous a jamais demandé si on aimait lire, si on aimait cuisiner, si on aimait la couleur, si on aimait jardiner ou faire de la musique.
En fait, vous avez ajouté du sens.
De l'humain.
De l'humain.
C'est-à-dire...
Dites-nous qui vous aimez, dites-nous ce que vous aimez.
Exactement.
Et que finalement, j'allais dire que les applications, qu'elles soient techniques, les objets qui remplissent une fonction ne sont là que pour justement être compatibles à ce sens.
Avec de la couleur, ouais, avec de la lumière, ouais, avec vraiment, de la douceur, ouais. Et on a arrêté de parler de maladie.
Nadia, vous êtes d'accord que c'est attendu, on est dans le contemporain.
On est dans une demande inconsciente.
Absolument.
Une question inconsciente qu'ils ne savent pas prononcer si on ne les amène pas à... Ils se laissent submerger par la douleur.
Donc accompagner ces personnes-là en maîtrise d'usage, maîtrise d'ouvrage, les accompagner dans une visualisation de leur habitat, que ce soit dans un magasin, dans un accompagnement,
etc. C'est essentiel et c'est ce qui manque.
Et c'est intéressant parce que tout
peut-être
à l'heure, on parlait de savoir-être.
Cette notion-là, oui. C'est que on les a aussi amenés à se réciter, à raconter leur récit.
Une forme de narration.
Oui, c'est ça, on leur a demandé de raconter ce qu'ils vivaient et de choisir la temporalité. Donc, ils pouvaient nous raconter une journée dans le domicile, ils pouvaient nous raconter du début de la maladie jusqu'à aujourd'hui.
Génial.
Et donc, peut-être aussi qu'on les a aidés à parler de leur vie, en fait, dans ce domicile, et donc peut-être de mieux faire le lien avec les techniques, les interventions humaines, puisqu'il y a aussi quand même beaucoup d'interventions humaines.
Mais oui, bien sûr.
Au domicile.
À prendre une distance.
Et du coup, à prendre de la distance à ça et à les regarder autrement à travers leur histoire qu'on leur aidait à expliciter.
Sans compter qu'il y a un élément qui est lié à la dépendance, qui fait, en fait, qui donne quelque part, je vais pas dire une forme d'intrusion, mais qui amène une nouvelle personne dans l'habitat, va nous commencer. C'est l'aidant, hein, le personnel aidant. Et je vous m'adresse à vous, Frédéric Morestin. Vous êtes ergothérapeute, chercheur, auteur. C'est toujours en cours, hein, l'étude sur l'aménagement et l'adaptation du handicap pour les adultes. Bon, moi, je vous connais un peu de réputation. Moi, s'il y a une chose que j'aime beaucoup chez vous, et vous le savez, je vous l'ai dit tout à l'heure hors antenne, c'est que vous avez une empathie extraordinaire et singulière. Et la singularité, c'est ce qui fait la personnalité. D'ailleurs, cette empathie, vous l'avez tous caractérisée, et c'est pour ça que j'aime beaucoup partager ce moment avec vous. On sent beaucoup d'humanité dans ce que vous faites. C'est intéressant, parce que vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes architecte, AMO, AMU, vous êtes designer, on pourrait dire, c'est très technique, il faut des années. Mais non, vous n'avez pas perdu cette intégrité humaine. Je trouve qu'elle donne beaucoup de sens dans une époque qui ne l'est pas toujours aussi évidente. Frédéric, d'abord, j'aimerais savoir ce que révèlent vos travaux de recherche, mais une réaction sur ce qui a été dit là, en tant qu'ergothérapeute.
Oh là là, j'ai été traversé de beaucoup de réflexions.
Voilà, je vous ai vu prendre de façon frénétique des notes. Faites-nous une petite restitution, parce que je suis très impatient de savoir quel est votre point de vue, parce que vous l'avez rappelé d'ailleurs très justement, Gaëlle, hein, c'est un travail collectif que vous avez mené tous ensemble. Quel est votre point de vue? Donnez-nous un petit peu un premier verbatim de ce qui a été dit.
Il y a des choses qui m'ont interpellé dans les propos là. Donc je vais vous partager mes notes. Peut-être la première chose que j'aurais réfléchi, c'est que vous avez attribué le terme de vulnérabilité. Moi, je pensais fragilité. Parce que la vulnérabilité, c'est une chose. La fragilité, c'est ce qui fait notre humanité. Et il serait temps, en fait, que l'on puisse refaire avec cette fragilité dans une société qui nous sollicite sans cesse dans la performance. Et dans une société qui pense tout pouvoir maîtriser. Je crois que, en fait, la pandémie, c'est une convocation à une nouvelle humanité. Et au bout du compte, on devrait s'en réjouir. Voyez. Alors bon, c'est compliqué, il y a eu des décès, etc. Mais voilà, c'est un premier mot d'espoir que je vous propose. C'est que cette pandémie, c'est une invitation à réfléchir notre sensible, notre fragilité, mais pour notre humanité. Et l'humanité a besoin qu'elle réfléchisse actuellement. Alors, l'autre chose aussi qui m'a animé en écoutant mes interlocuteurs, c'est cette question de, tiens, étonnamment, dans la question de l'habitat, la question du genre a du sens. Et elle reprend du sens. Et je me disais, ben oui, pas forcément que par le fait que nos bricoleurs soient pris par des questions liées au patriarcat, etc. Mais au bout du compte, par le fait que notre société contemporaine, elle est en train de vivre une transformation profonde liée à la transformation démographique, à la transition démographique. Et au bout du compte, ça crée une inégalité de genre. Les femmes vont vieillir, semble-t-il, plus longtemps que les hommes. Mais on a bien entendu que sur les chantiers, les hommes sont très présents, en fait. Et dans l'amour qu'ils ont pour leur famille, ils ont construit des nids douillets. mais n'ont pas su toujours anticiper cette question, en fait, de la transformation sociétale que va générer les évolutions démographiques,
l'allongement de la durée de vie. Voilà. Il faut juste rappeler qu'en 1901, un homme vivait en moyenne 48 ans, en moyenne, une femme à peine plus, et qu'on a gagné en moyenne 3 mois de vie supplémentaire depuis quasiment un siècle. Aujourd'hui, on est sur des moyennes, je crois, de plus de 80 ans.
C'est ça.
Mais donc, au bout du compte... C'est considérable d'avoir, pour un homme, pris plus de 30 ans de vie supplémentaire en l'espace de 120 ans, quoi.
C'est pas considérable. Je pense qu'il faut aller plus loin, si je peux me permettre.
Oui, mais au contraire.
Je pense qu'il faudrait ramener chacun d'entre nous à notre bonne vieille échelle du temps. Et au bout du compte, notre siècle face à l'humanité n'est qu'une petite virgule, et que cette petite virgule, nous sommes en train, au bout du compte, de la découvrir, et qu'il est temps pour notre humanité de remettre dans cet instant que nous sommes en train de vivre de la longévité, et de regarder à l'échelle de l'évolution de l'homme ce que nous sommes en train de vivre. Et peut-être que dans 100 ou 200 ans, en fait, vos enfants ou arrière-petits-enfants se rendront compte que ce que nous sommes en train de vivre est une transformation aussi profonde peut-être que l'âge de fer, et que c'est vraiment quelque chose de très contemporain, et que notre questionnement d'aujourd'hui, notre agitation à essayer de comprendre, elle est pertinente parce que ce n'est pas une petite transformation du monde et de la société. Alors, sur la question du genre, quand même, je souhaiterais vous dire que ce qui est intéressant dans la question de la maison, c'est qu'au bout du compte, l'inégalité face à la démographie fait que les femmes vont vivre plus longtemps et vont donc habiter le logement le plus longtemps possible. Elles vont se retrouver veuves et elles vont devoir faire avec la question de la transformation de la maison. Et des fois, dans les couples, c'est compliqué de se projeter dans cette question de la fragilité, de savoir comment faire avec une maison qui doit se transformer, un mari qui a fait son mieux pour faire un aménagement du domicile, mais en fait, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire, etc. Et au bout du compte, je me rappelle de Thérèse Claire qui rappelait ça, c'est qu'en fait, au bout du compte, qui s'occupe des vieux au bout de la vie, c'est encore les femmes, le lien social. C'est elles qui vont se mettre au boulot, et elles se mettent encore au boulot dans la question de comment penser l'habitat. Et je pense qu'il y a à réinterroger sous le prisme du genre cette évolution. Alors j'ai d'autres mots, mais...
Alors que révèle justement la première question que je voulais vous poser, et puis je vous invite à y répondre aussi, à vous donner votre éclairage, et la parole circule librement. Que révèlent à l'instant T les travaux de recherche que vous avez menés?
Alors, bon, cette étude, elle est dense, nous a permis d'aller voir...
Quels sont les grands marqueurs qui vous ont à la fois surpris, parce que je sans nul doute, je pense qu'il y a des éléments qui vous ont certainement marqué et surpris.
Alors, il y a des éléments qui m'ont permis de mettre à la fois des mots et des chiffres, et que derrière des idées, c'est bien d'avoir à un moment quelque chose qui soit du dur et qui nous emmène plus loin que la conception. Notamment, c'est que nous étions posé la question de savoir s'il y avait différents types de situations, de projets proposés à la Fondation Leroy Merlin, et au bout du compte, notre intérêt, c'était déjà de connaître ces habitants en situation de handicap. Est-ce que c'était des enfants, des adultes, etc. Quelle était la nature de leurs besoins d'adaptation, d'aménagement, etc. Et bien sûr, derrière, nous avons fait alors au démarrage une grille pour essayer de comprendre un tout petit peu toutes ces situations. Pratiquement 670 situations aidées par la Fondation Leroy Merlin. Je me permets de dire 670, c'est parce qu'en fait, ça nous donne un échantillon qui est quand même extrêmement représentatif et dense.
Bien sûr, représentatif.
Alors,
oui, tout à
fait. On s'était posé la question, au bout du compte, quelle est la nature, aménagement, adaptation, et puis est-ce qu'il y avait des espaces particuliers, en fait, dans le domicile? Et en parlant même d'espace, ça nous renvoie à des représentations qui sont la cuisine, la salle de bain, etc. Mais un des espaces qu'on oublie parfois, c'est les espaces de la circulation intérieure, de la circulation extérieure. Alors, un des premiers enseignements, c'est qu'on s'imaginait que la salle de bain poserait énormément de problèmes face à une question liée au handicap, à la question de l'intimité, etc., à pouvoir maintenir cette activité de vie.
D'ailleurs, le précédent ministre du Logement, qu'Emmanuel Wargon a remplacé, Julien Normandie, avait initié un grand projet de transformation de la salle de bain en salle de douche, hein, en douche à l'italienne.
Oui, alors, un des résultats...
Pour adapter, effectivement, la salle de bain.
Un des résultats extraordinaires, c'est que on a essayé de regarder s'il y avait des espaces qui se combinaient. Donc, en fait, la salle de bain apparaît dans pratiquement 400 situations.
Ah, quand même.
C'est énorme, hein.
C'est énorme.
Énorme. Mais, en fait, seulement dans 50 situations, elle est le seul objet de la transformation. Et dans les 350 autres cas, elle se compose avec d'autres espaces du logement, et notamment les espaces de circulation intérieure et extérieure. Donc, en fait, au bout du compte, si je peux me permettre, c'est qu'une salle de bain adaptée, c'est bien, mais une salle de bain adaptée et accessible, c'est encore mieux. Et je vous avouerai que c'est encore un concept difficile à faire passer, parce que cette notion de l'accessibilité, c'est pas seulement l'accessibilité dans l'espace de la salle de bain, c'est comment en fait la salle de bain est bien reliée aux autres
Attention
espaces de
aux critères économiques, dont souvent on fait l'analogie en disant, attendez, on fait ce qu'on peut en zone tendue avec des espaces qui sont réduits et qui ne permettent pas justement cet élargissement ou cette capacité à réagir. C'est pas toujours le cas, hein. Juste Nadia Samy sur cette question.
Oui, c'est pas toujours le cas, mais je voulais revenir surtout sur cette notion d'accès, accéder, participer. Aujourd'hui, on a toujours cloisonné, les textes effectivement s'orientent et les aides s'orientent sur la salle de bain, s'orientent sur la loi de décembre 2015 sur les personnes âgées, s'orientent sur la loi de février 2005 sur les personnes en situation de handicap. On cloisonne et de fait, on ne fait que des erreurs. On ne fait que des erreurs parce qu'on focalise et on génère du confinement à domicile. On ne génère pas du maintien sur son lieu de
est-ce
vie.
Est-ce qu'ils le vivent comme un confinement à domicile?
Ah ben, au
en
début,
fait, être
non,
malade,
parce que...
c'est une assignation à résidence.
Et puis tous vous disent, oui, et tous vous disent... sortir, rester en mouvement, sortir,
ah oui,
sortir,
ah oui,
sortir. Oui. La maman qui en peut plus de pas sortir, parce qu'elle
ça,
s'occupe du petit,
entendu,
les
ça.
Dents qui en peut plus de pas sortir, réussir à sortir. Donc cette notion de 30 mètres, 300 mètres, le dernier kilomètre dont on a beaucoup entendu parler pendant le Covid. Nous, c'est des choses qu'on défend depuis plus de 20 ans. Et le Covid en exhausteur de goût, si j'ose dire.
Oui. Ou un accélérateur de...
Ou accélérateur
ou un révélateur
de prise
photo,
de conscience.
À tendance sociale.
Nous permet aujourd'hui de mettre la lumière sur ce qu'on essayait de défendre depuis plus de 20 ans auprès de politiques et d'aménageurs qui disaient c'est n'importe quoi, c'est l'utopie, c'est ceci, c'est cela. Non, là, quand je suis malade et fatiguée, 30 mètres, c'est bien parce que j'ai pu les faire, mais ce sera mon maximum. Donc qu'est-ce que je trouve comme type d'aménagement dans le sensible, le doux, la couleur, l'accompagnement, encore une fois, dans le sensible, pour me permettre de sortir. L'appui, non pas le banc, puisqu'on l'a vu, le Covid aussi nous a beaucoup aidé, mais plutôt l'assise salon pour partager. Je n'existe qu'à travers le toucher, le regard des autres.
C'est là qu'on voit que la proposition d'objets, et vous les designers, vous êtes... je pense que vous devez être remboursé par la Sécurité sociale. Non mais, je caricature un peu, mais je veux dire, vous avez un rôle majeur dans l'écoute. Moi j'aime beaucoup la présentation de votre profil, Gaëlle, parce que vous dites, je suis designer et chercheur en design. C'est-à-dire qu'en fait, vous préoccupez de l'humain, et à partir justement de cette tendance de la maîtrise de l'usage et de l'écoute, vous imitez ou vous initiez des objets qui vont permettre en fait quelque part d'avoir cette vie apaisée ou de cet apaisement que doit représenter nécessairement l'habitat. C'est là qu'on voit que l'objet en fait devient le support quelque part d'une vie qui peut être plus agréable, plus accompagnée. Quand on parle de transformation du logement, on parle aussi, Frédéric Morestin, d'une anticipation, mais justement... du mot d'anticipation. Mais justement, il faut être proactif, parce que quand vous dites anticiper, que vous êtes en bonne santé, en fait, vous ne voulez pas vous dire que vous serez un jour en mauvaise santé. On élude. Vous savez, vous et moi, nous tous, j'ai une nouvelle à vous annoncer, on va tous mourir. Vous le savez.
Bon. Et on va tous vieillir, en plus.
Et on va tous vieillir. Sauf que... mais si je vous dis, est-ce que vous allez mourir un jour, Jean-Paul, vous allez me dire, mais oui, absolument. Sauf qu'on n'y croit pas réellement. Et heureusement qu'on n'y croit pas réellement, parce que sinon, ça serait assez déprimant de vivre. Mais Frédéric, quand tout va bien, tout va bien, pourquoi il faut anticiper l'adaptation de ce logement? Parce que c'est ça la vraie question auquel il faut répondre. D'avoir un logement et de dire, c'est quand tout va bien, j'ai déjà pensé quelque part, j'ai anticipé ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs.
Si je peux me permettre, je pense que...
Mais permettez-vous, ce que vous voulez.
C'est ma marotte, vous savez, je me permets toujours, en fait, au bout du compte.
Voilà, c'est ce que vous voulez. Voilà, pour Frédéric Morestin, tout est possible.
En fait, ce que vous posez, c'est une question de l'individu. Mais au bout du compte, je vous ai parlé depuis le début de l'humanité. Donc en fait, il faut qu'on réinterroge collectivement les choses sur quel est l'intérêt pour notre société, pour nous, pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, de commencer à repenser les choses. On peut repenser la transformation de son logement. Je pense que j'y rajouterai un autre mot, c'est un enjeu de repenser la transition. Et penser la transition, c'est se lancer vers une aventure humaine et une exploration humaine. Ne me demandez pas comment demain ça sera. Je dis, commençons à réfléchir ensemble, commençons à reconstruire. La difficulté actuelle, c'est que nous vivons dans un contexte particulier, mondialement en difficulté, mais que nous avons en fait des caractéristiques propres à l'habitat français. Nous aimons bien nos vieilles longères, nous aimons bien nos quartiers haussmanniens. Tout ça, c'est l'empreinte d'une France qui a un patrimoine historique
exceptionnel. Et puis nous l'aimons et
on adore
et c'est
ça.
Beau.
Et on vient en France pour regarder ça. Oui. Et cette France, elle vieillit. Et son enjeu, c'est de faire face à son vieillissement et à son patrimoine immobilier vieillissant. Nous devons le transformer pour qu'au bout du compte, il puisse vivre les enjeux de l'avenir. Ce sont les enjeux démographiques, ce sont les enjeux énergétiques. Mais tout ça n'est pas cantonné dans des placards. En fait, il demande une pluralité des regards pour que nous composions des réponses qui ne sont pas des réponses simples. En fait, le problème actuellement, vous voyez, c'est de vouloir simplifier la pensée, alors que les problèmes sont complexes et on doit travailler à l'intelligence des êtres qui nous entourent. Et actuellement, les débats ne nous rendent pas intelligents. Alors, aujourd'hui, je trouve qu'on a le temps de pouvoir échanger, mais il faut aller cultiver l'intelligence commune pour que cet enjeu de la transformation de l'habitat puisse profiter à tous. Et d'ailleurs, si on regarde un tout petit peu les résultats de cette recherche qui s'appuie sur l'aide de la Fondation à des personnes en situation de handicap, dans lequel des collaborateurs...
Ben justement, c'est la question que je voulais vous poser, et je voudrais vous le préciser, quel a été le rôle de la Fondation Leroy Merlin dans vos travaux, justement ?
Bien, déjà, la Fondation apporte un soutien financier et un soutien par l'accompagnement des relais fondations. Donc on a essayé d'interroger au bout du compte la perception que pouvaient avoir les habitants sur l'intervention des relais fondations et aussi quelle était la perception des relais fondations sur leur intervention. Moi, je vous avoue que je me suis retrouvé dans une dimension assez humaine. Voilà, on est dans un échange qui est le don et le contre-don. Des professionnels avaient une action bénévole au sein de leur entreprise et puis ils ont décidé de faire autre chose. Ils ont déjà pu dire qu'ils s'en sortaient grandis. Quand on a interrogé au bout du compte les habitants en disant « Mais est-ce que ces relais fondations ont eu des compétences particulières ?» Ils ont mis en avant des connaissances particulières, effectivement, du côté des relais fondations. Ce sont des professionnels du monde de l'habitat et de la grande distribution. Donc, ils avaient parfois une connaissance d'artisan, ils avaient parfois la connaissance de certains produits ou de certaines solutions. Et puis, quand on posait la question, en fait, aux relais fondations, en disant, bon, est-ce que, au bout du compte, vous avez mis en avant certaines compétences ? Eh bien, à chaque fois, ils minoraient en disant, non, on n'est pas là pour parler business. Et au bout du compte, non, je pense pas que j'ai fait preuve de quelque chose de particulier. Et ce hiatus, cette différence entre la perception des habitants et, des relais fondations, elle est intéressante. Parce qu'au bout du compte, oui, ils ont développé des compétences particulières qu'ils ont mis au service des habitants, qui dit quelque chose de la nature d'un accompagnement. D'un accompagnement qui a été souvent qualifié d'humain. Et au bout du compte, ces relais fondations ont revendiqué cette humanité dans leur action bénévole. Alors, je rentre pas dans le détail, mais au bout du compte, c'est un peu ça. Et on voit bien que dans les questions que vous avez posées aujourd'hui sur quelle confiance attribuer à l'artisan, il y a beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir d'autres acteurs dépourvus d'intérêt.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, l'intelligence collective. Moi, j'avais cité le livre de Michel Serres, Le Tiers Instruit, où aujourd'hui, pour apprécier le siècle dans lequel nous sommes, il fut un temps dans notre humanité où une seule personne pouvait appréhender l'intelligence de son siècle. Aujourd'hui, il s'agit bien d'intelligence collective. Je voudrais qu'on donne la parole à Viviane Hamon, qui est à distance, qui a eu la patience de nous écouter. Viviane, est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Je suis toujours là, oui.
Voilà, je voudrais, voilà, vous avez écouté, je sais, avec beaucoup d'attention ce qui a été dit. Voilà, spontanément, qu'est-ce que ça vous a inspiré, Viviane ?
J'ai envie de revenir sur la notion de genre, parce qu'elle est intéressante, dans le sens où, quand même, le chez-soi, c'est quelque chose d'extrêmement féminin, en fait, le soin chez-soi. Et je voudrais citer... une chercheuse belge dont les travaux m'ont beaucoup inspirée, qui raconte que l'homme est bricoleur à condition qu'il ait une femme qui le pousse à bricoler, en fait. Hein. Et ce qu'elle raconte est appuyé sur des statistiques extrêmement sérieuses. Et donc, la féminisation, en tout cas, moi, je la retrouve beaucoup dans mes recherches sur le fait que c'est quand même souvent la femme qui est l'âme du foyer et du projet. On est d'accord sur les transformations, sur le fait qu'elle s'y colle aussi quand il s'agit de saisir la perceuse et pas seulement comme bimbo, mais son rôle est vraiment de faire projet pour la famille, de mettre son mari au travail quand il le faut, et aussi de mettre ensuite en valeur, c'est ce que dit Françoise Barthiaud, cette chercheuse belge, de mettre en valeur son mari dans le dîner avec des amis le week-end de suivant le week-end de travaux pour dire qu'est-ce qu'il a fait. Donc il y a quelque chose certainement à creuser dans nos recherches sur cette relation au sein des ménages. Et puis je voulais revenir aussi sur autre chose qui renvoie à l'accompagnement, c'est que sur vraiment ce qui nous intéresse là, c'est-à-dire des maisons existantes, hein, on n'est pas en train de parler de construction neuve, mais bien de maisons existantes, c'est le fait que dès qu'on commence à faire des travaux, on fait face à une matérialité qui s'impose à soi. Et cette matérialité, elle est faite de surprises en cours de chantier qui expliquent les photos, ce qu'expliquait très bien Jean-Paul Filiot. On prend des photos aussi parce qu'on tombe sur des surprises, on a à faire face à des surprises en cours de chantier et il va falloir gérer la surprise, réparer ce qu'on n'avait pas vu, faire face à de l'inconnu avec des conséquences matérielles. Ça peut être des conséquences financières extrêmement importantes qui remettent en cause le chantier et qui éloignent du projet initial.
Merci beaucoup, Viviane. Voilà, je voudrais que nous fassions un dernier tour de table, très rapidement si vous voulez, une espèce de verbatim de conclusion, et vous dire aussi que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous. Je vous le dis, je l'ai déjà dit précédemment, que cette intelligence, finalement, elle est jubilatoire, parce que quelque part, on a tous des talents, vous avez tous des talents, qui réunis produisent des éléments. Et ce que j'aime dans cet élément-là, c'est l'élément central qui est l'usage, l'humain, qu'on replace enfin au cœur de cette préoccupation, il faut le souhaiter, parfois peut-être avec un peu de candeur, en tout cas, comme dirait Montaigne, cette candeur-là, finalement, est marre parfois, indépendamment du reste, un oreiller plutôt doux. Je vais commencer par vous, Frédéric Morestin. Voilà, quelques mots sur le moment qu'on vient de passer, les travaux que vous avez menés, ce qui a été dit. Je sais que vous êtes de nature, on va dire, optimiste.
Je me demandais qu'est-ce que je pouvais bien vous répondre. En fait, c'est plus que ça. En fait, je suis de nature et je pense que j'ai un héritage, en fait, utopiste. Moi, je crois qu'en fait, une société, elle a un devoir, penser le meilleur. Et dans le moment qui est le nôtre, ou dans le moment qui est la fragilité de quelqu'un, je crois que ce que j'ai pu explorer dans ma vie et aussi dans cette étude, c'est combien, en fait, pour vivre et survivre, l'effondrement n'est pas la solution. Il faut le tenir, vous savez. Et tenir, ce n'est pas forcément se résigner à dire que tous les matins, ça sera dur, non. Tenir, ça peut être aussi un voyage heureux. Et je crois que de ce que j'ai vu des habitants accompagnés par la fondation Leroy Merlin, la maison, c'est un bon chemin pour se projeter dans la vie. Quand elle nous permet de nous mettre au contact de la société et des autres, quand elle nous permet de ne pas se transformer en fait en prison. Vous savez, j'ai travaillé en prison. En fait, Jacques Chirac, c'était pas Chirac, excusez-moi, c'était Giscard d'Estaing en 76, avait rappelé ce qu'était la peine d'emprisonnement. C'était une interdiction de pouvoir se déplacer avant tout. Il n'y avait plus jugement moral. On interdisait une personne, on les mettait en prison. Il fallait ne plus pouvoir se déplacer. Donc, un logement, lorsqu'on ne peut pas sortir de chez soi, c'est une prison.
C'est une prison, absolument.
Et donc, au bout du compte, permettre à des gens que le logement ne devienne pas une prison, c'est essentiel. Et je crois que nous pouvons tous, avec la pandémie, se saisir de cet enjeu-là, parce que nous-mêmes, nous sommes rendus compte que nous avons été pour un temps prisonniers, voire en semi-liberté, et que vous savez, nous allons tous vieillir. Si nous ne sommes pas attentifs à cette transition, au bout du compte, nous ne serons pas heureux, mais ça aura aussi un coût économique que nous allons tous devoir payer.
Absolument.
Donc les enjeux sont énormes.
Et ça s'appelle même la cinquième branche, c'est la dépendance qui a été mise en place à la Sécurité sociale. Et c'est là que les acteurs, finalement, de la distribution, du bricolage et de la maison ont un rôle majeur pour anticiper les mouvements de population. Vous avez dit enfermés à l'intérieur, à contrario, il y a des personnes qui n'ont pas de maison, qui eux sont enfermés dehors. Et c'est intéressant l'analogie entre les deux. C'est-à-dire que le désespoir qui peut résulter d'un habitat indigne, ou d'un habitat mal pensé, ou d'un habitat qui finalement d'accompagnement les mouvements contemporains de la population, pour ça que vous avez raison de dire qu'on vit une période de formidable transformation anthropologique, à contrario, on a des personnes qui, eux, pour le coup, n'ont pas de maison et sont enfermées dehors. J'aime bien cette idée,
il faut aussi le rappeler. Je me rappelle de ce premier jour de confinement, je n'étais pas confiné, je devais aller dans un foyer de migrants. Je me rappellerai toujours de ce qu'est Gare du Nord. Vous savez que Gare du Nord est souvent bien remplie. Je me suis trouvé seul à 9h du matin, bien solitaire, avec beaucoup de désœuvrés. C'est une vision bien particulière à ce moment-là. Je ne l'oublierai jamais.
Oui, et merci Frédéric de le dire, et je me permets de le dire, et merci à nos amis Laurent Merlin aussi de pouvoir le dire, c'est qu'effectivement, c'est une prise de conscience avec la réalité, et il nous faudra bien l'accepter sans faire de déni, justement, précisément de cette réalité. Jean-Paul Filiot. Quelques mots.
Alors, quelques mots. Juste une petite réaction à ce que Viviane a dit. Il faudra qu'on en parle dans le cadre Leroy Merlin Source, etc. Mais je pense que le chez-soi est avant tout humain. Alors, je vois ce que tu veux dire, hein, Viviane, hein, sur le fait que la prise en charge par les femmes et le fait que il y a un leadership familial ou quelque chose qui est lié à l'acte d'habiter. Nous sommes d'accord sur le constat statistique, mais il y a tellement de choses qui changent qu'il faut réinterroger cette question.
Met en relief cette réalité.
Oui, parce qu'il y a un risque d'essentialisme,
oui,
mais
c'est
pas ce que Viviane veut dire, heureusement. Oui. Mais voilà, ça veut dire peut-être que Leroy Merlin Source lancera un jour un débat trans-recherche sur la question du genre, parce
qu'on
est beaucoup
la question de la sensibilité, tout simplement.
Oui, voilà, mais bon, c'est un sujet lui-même sensible, donc je m'arrête là. La chose à laquelle...
Polémique, hein.
Non, du tout, c'est pas polémique du tout. C'est pas mon genre, donc...
je disais pas ça, je disais, ce sujet est parfois...
Ah oui, le sujet, oui. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de parler comme ça, de manière un peu à bâton rompu, ça donne l'impression parfois qu'on initie nous-mêmes
des
polémiques.
C'est clair.
Mais ce que je voulais dire, moi, c'est une résonance par rapport à ce que vous disiez tous les trois sur vos sujets, et sur le fait que nous, sur la question du chantier, on a cherché des personnes plus âgées, des vieux, des vieilles, comme on pourrait les appeler sans que ça soit péjoratif. Et on n'en a pas trouvé. C'est-à-dire que parce que nous, on voulait des personnes qui faisaient les photos. Et très souvent, quand c'est des personnes âgées comme ça, c'est les enfants qui font les photos pour garder la trace de ça. Alors, on a créé un site internet parallèlement à la recherche, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une banque de données sur des images de chantier. Et on sollicite, au-delà des personnes qu'on a rencontrées, n'importe quelle personne habitant sur la planète, clique sur participer, nous envoie un mail... Donc on a des images qui viennent de Sierra Leone, bientôt du Danemark. Il y a plein d'images qui circulent sur les réseaux sociaux que Viviane a arpenté, où il y a des groupes qui présentent des choses sur le chantier, où on montre alors beaucoup de scènes de convivialité. Et je terminerai sur le fait que nous sommes posés la question, nous, des images qui renvoyaient à des moments négatifs du chantier, parce que beaucoup de choses se disent sur le traumatisme qu'est un chantier. Donc ça, c'est la vision extrême de la transformation de la maison. Mmh. Et en fait, on n'a pas de traces iconographiques de moments difficile. Ou il y a des choses qui ont été vécues, parce que il y a plein de photos, mais elles n'enregistrent pas tout. Et les traumatismes ou les moments difficiles, eh bien, en fait, il n'y a pas de traces photo. Dans les entretiens, on a eu quelques récits sur une photo qui montrait ça, et puis bon, ouais, là, ça s'était un petit peu mal passé. Ouais, ouais. On s'est un peu engueulé, mais on s'est un peu engueulé. Je veux dire, ça se voit pas sur la photo. C'est pas la photo qui montre le couple ou les amis en train de s'engueuler parce que il y a un problème technique et que l'autre comprend rien. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, tiens, l'image du chantier par rapport à la transformation de la maison, c'est des images positives qui doivent en être données.
Merci, Jean-Paul. Nadia, Samy.
Moi, j'aurais envie de conclure sur, vous avez dit, comment apporter le changement, l'évolution. Cette notion d'évolutivité, c'est-à-dire que on ne peut amener ces notions qu'à travers des mots positifs, malgré tout. C'est-à-dire que si on dit aux gens, il faut que votre logement évolue parce qu'un jour vous pouvez être malade, il faut que votre logement évolue parce qu'un jour vous pouvez être vieux, comme on dit toujours, il y a toujours plus con que soi, il y a toujours plus vieux que soi, mais ce sera jamais moi. Donc on ne peut pas aborder les choses de manière frontale, sinon ça ne passe pas et il n'y a pas de possibilité de faire changer les choses. Par contre, et c'est en cela que je rejoins complètement Frédéric, pour moi le Covid a apporté certes des choses difficiles, puis je l'ai vécu, j'étais hospitalisée aussi, donc je peux en parler de l'intérieur, mais aussi de très belles choses. C'est la prise de conscience et c'est l'ouverture. Cette notion d'introduction du besoin d'évoluer, de faire évoluer son habitat. J'ai pas envie de dire son logement parce que je veux pas retomber sur le confinement. Son habitat, son lieu de vie au sens large du terme, c'est pouvoir déplacer des cloisons, c'est pouvoir faire des ouvertures, c'est pouvoir vivre dans deux pièces et puis après revivre dans quatre pièces, c'est pouvoir faire la niche pour accueillir l'aidant familial ponctuellement. C'est pouvoir faire la niche ou le placard intelligent ou la surépaisseur pour pouvoir accueillir le lieu de travail ponctuellement, le loisir ponctuellement, le petit qui doit jouer avec son ballon de basket dans l'appartement et qui va rendre dingue tout le monde. C'est la thermique, c'est l'acoustique, c'est la lumière, encore une fois, c'est la douceur, c'est le sensible. Donc c'est l'évolution, l'évolutivité, mais à travers des orientations positives. Quand on arrive sur un chantier, vous l'avez compris, on parle d'abord des gens avant de parler de la technique. La différence de genre, souvent, comme encore une fois, c'est le sensible. On va être le côté plus masculin, c'est pratique. Le côté plus féminin, c'est doux, joli. Donc, on va faire se rencontrer le doux, le pratique et le joli. Quand je parle d'une baie toute hauteur, je parle de toutes les générations et je dis le petit va pouvoir courir avec faire ses premiers pas sans tomber. J'ai pas dit que la personne âgée pourrait continuer à sortir sur sa terrasse et son balcon plus tard. Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé et je l'ai anticipé.
C'est clair.
Mais je ne dois pas le dire, sinon je ne réussirai pas à le faire passer.
Ça s'appelle une punchline, ça, en conclusion. Merci, Nadia. Gaël Guillou.
Pour faire suite à ce qui s'est dit, je dirais que, et pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure sur la salle de bain, la salle de bain, c'est devenu un capital social, c'est-à-dire que maintenant tout le monde a dans sa tête le fait qu'il faut pas une baignoire, mais il faut une douche, parce que du coup toutes les communications, en fait, c'est une espèce de capital social acquis. Et je pense que du coup, comme le disait Frédéric, on pourrait aussi amener plus de subtilité dans le capital social acquis qu'on pourrait transférer aux gens. Et sur cette salle de bain, justement, parler de l'articulation de la salle de bain avec les autres pièces, c'est aussi de parler de la façon dont les gens vivent ce moment de la salle de bain, puisqu'il y a différents moments de la salle de bain dans notre quotidien. Et ça, c'est important. Et du coup, je ressouligne le fait de l'aspect des récits de vie et de la façon dont on vit. Et comment on apprend aux différentes professions qui vont participer à l'évolution de cet habitat à prendre en compte ce récit de vie et à l'intégrer dans la façon dont ils vont amener des solutions et ne pas simplement appliquer des solutions qu'ils ont apprises dans telle ou telle formation ou dans telle ou telle chose. Et puis la deuxième chose, c'est sur la question de la prévention. Qui me semble importante. Nadia en parlait sur l'aspect du beau, du sensoriel. Aujourd'hui, pour donner un autre exemple, on convie les gens à faire des ateliers mémoire.
Oui, tout à fait.
Vous n'avez pas envie d'aller dans un salon pour vieux ou voir un appartement témoin bourré de technologies pour vieux ou d'aller faire un atelier mémoire. C'est un peu effrayant. Par contre, vous avez peut-être envie de faire du jardinage.
C'est déprimant.
Et dans la façon de faire du jardinage, ouais, vous avez peut-être envie qu'on vous aide à travailler la mémoire en parlant des espèces, en parlant des saisonnalités pour reprendre pas sur le rythme et sur un rythme. Et du coup, je pense que dans la question de la prévention, et c'est en tout cas moi ce que je fais en tant que designer, et ce que je pense que le design doit faire, comme l'architecture, c'est d'aller regarder quels sont les déterminants ou les motivations qui permettent aux gens de se projeter dans de la prévention sans le dire. Je vais utiliser un clem qui n'est pas forcément, enfin qui est issu un peu de la philosophie de comptoir, mais je vais reprendre un mot de la marionnette des Guignols de Richard Virenque qui disait je me suis dopé à l'issue de mon plein gré. Et ben je pourrais faire quelque part de la prévention à l'insu de mon plein gré. Je sais que j'en fais, mais je vais pas faire ça. C'est pas mon premier ressort.
Bien
je vais
sûr.
Faire autre chose qui me fait plaisir, qui me motive, et en même temps, je sais que je me fais du bien.
Ou un monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, bien évidemment. Ça aussi, ça s'appelle une punchline. Évidemment, on a un casting de rêve. La parole de fin est à vous, Viviane. Vous êtes toujours connectée avec nous.
Je suis toujours là.
En Provence. Ah. Voilà, quelques mots pour clore cette table ronde. C'est à vous, Viviane Amand.
Je passerai peut-être par l'Angleterre, enfin la langue anglaise en tout cas, en disant que la langue anglaise elle a une grande supériorité sur la langue française en distinguant house et home. Et que je pense que peut-être que l'erreur que font beaucoup de professionnels de l'habitat, c'est de s'intéresser à house au sens d'un objet technique qu'on peut traduire éventuellement par maison, et qu'ils auraient grand intérêt à s'intéresser à la home, c'est-à-dire au chez-soi, et qu'il y a vraiment ce hiatus qui existe entre, d'un côté, des ménages qui parlent de leur maison et des professionnels qui parlent d'un objet technique, et qu'il faut arriver à réconcilier, alors je ne sais pas si on trouvera les mots en français, un mot, enfin quelque chose d'aussi clair, mais réconcilier house et home.
C'est une très très jolie conclusion, et moi j'ajouterais ceci, je pourrais même le dire en anglais, housing the world, a place for everyone. Finalement, un toit pour tous, qui permet effectivement d'aller... Vous savez, il y a une vision maslonienne finalement dans ce que nous faisons. Nous sommes arrivés à un niveau, j'allais pas dire d'apogée urbaine, mais en tout cas, où l'habitat est à la fois le premier indicateur social, mais aussi un indicateur d'inclusion sociale. Donc dans l'habitat et pour l'habitat, avec les éléments dont vous avez décrit, notamment l'accessibilité, le fait effectivement d'anticiper, comme le rappelait très justement Frédéric Morestin, les éléments de la vie. Merci beaucoup à vous, Viviane Amand, qui était en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes consultante et anthropologue, auteur de la recherche « Explorer le temps du chantier ». Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous à distance. Merci tout spécial à Jean-Paul Filiot.
Merci
beaucoup votre vision et en même temps votre énergie, je pense que c'est voilà quelque chose qui est jubilatoire. Vous êtes sociologue et anthropologue, co-auteur de l'étude « Saisir le chantier par l'image, ne changez rien et surtout photographiez ». Merci beaucoup.
Merci.
À vous Jean-Paul. Merci vraiment à Gaël Guillou, designer, chercheur en design et co-auteur de la recherche de la santé habitée. J'aime beaucoup aussi la singularité de vos propos. On n'entend pas souvent des designers qui parlent comme vous, donc je trouve ça franchement réjouissant. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Grand merci à vous, Nadia Samy. Vous êtes architecte, vous êtes AMO, AMU, hein, pour la maîtrise d'usage, donc avec un apostrophe pour us et tiret pour le mot âge. Je trouve ça super. Il faut en parler beaucoup. En tout cas, comptez sur nous pour relayer l'information. Et vous êtes co-auteur, bien entendu aussi, de la santé habitée, des spécialistes des questions d'accessibilité pour tous les bâtiments. Merci, Nadia. Frédéric Morestin, merci. J'adore vous écouter. Vous avez une voix presque lyrique.
Merci, Sylvain. Et
une vision un peu poétique. Pourquoi ne réenchanterions-nous pas cette nouvelle urbanité, cet habitat? Merci en tout cas d'avoir été. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute et chercheur, vous êtes auteur d'une recherche sur l'aménagement et l'adaptation du logement, du handicap d'enfants et d'adultes. Moi je vous dis une chose, Frédéric, ne changez rien. Voilà. Les métamorphoses du chez-soi disponibles sur le site Leroy Merlin Source. .fr, plasticité du logement et le temps de la vie. Voilà, c'est le livre à lire et à consulter. Et vous pouvez bien sûr, en replay, retrouver ce que nous avons enregistré pour les tables rondes, bien évidemment, sur ces sujets du métamorphose, de la métamorphose du chez-soi, que je vous invite bien évidemment à liker, à commenter. Un merci tout particulier à l'ensemble de nos équipes de production qui ont produit cet événement. Merci également aux équipes de Leroy Merlin, Source, Claire, Denis, Pascal et tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette organisation. J'espère qu'on a été utile, qu'on vous a permis de réfléchir. En tout cas, une chose est sûre, c'est une succession à épisodes et je suis sûr qu'on se reverra bientôt. Belle journée à tous.
Métamorphose du chez-soi. Une rencontre proposée par Leroy Merlin Source. Retrouvez tous les documents sur leroymerlinsource.fr.